Trois nouvelles, œuvre de jeunesse, Gustave Flaubert. Le moine des Chartreux ou l'anneau du prieur. Il y avait déjà 8 jours que les caveaux de la grande Chartreuse avaient retenti du chant des morts à l'enterrement du prieur, lorsque le frère Bernardo, couché dans sa cellule, se rappela toute cette scène de deuil, et les plus petites circonstances de cette triste journée vinrent se représenter à sa mémoire, fraîche et récente encore. Il voyait de là sa longue robe, sa ceinture de corde, sa barbe blanche, sa couche de marbre et ses mains posées en croix sur sa poitrine. À cette pensée, il s'arrêta. C'était cette même pensée qui le torturait depuis si longtemps, c'est-à-dire depuis quelques jours, qui ne lui laissait pas un instant de sommeil, pas une heure de repos. Cette même pensée qu'il aurait voulu pour tout au monde effacer, anéantir, et qui se représentait là, toujours plus forte et plus puissante, parce qu'elle était belle et gracieuse. Il se releva, se mit à genoux, et chercha un peu de repos dans la prière. Oh, non, ce fut en vain, toujours là, toujours là. Il alla à sa fenêtre pour voir si le charme d'une nuit tranquille, si le silence de la nature endormie, n'inspirerait pas à son âme plus de repos que la prière ou la vue d'un Christ. Non. Et pourtant l'air était pur, le ciel sans nuages, la lune sereine. La campagne était belle, quelques cabanes, un bois et un vaste château en formaient l'horizon. Et son front se rida. Et il pensa encore à la tombe du prieur. La même image vint se représenter à son esprit, et ses lèvres balbutiaient convulsivement quelques mots qui mouraient en naissant. Oh, la voir, le tenir, le posséder, rêver un monde dans une prison, penser à la vie dans un sépulcre. Oui, j'irai, je le prendrai, cet anneau. En effet, n'était-il pas naturel que ce pauvre homme, qui n'avait pas la réalité pour jouir, souhaitât des illusions pour rêver? Et on savait dans le couvent que cet anneau de prieur se rattachait à des souvenirs de jeunesse et d'amour dont sa piété n'avait pu se défaire, car après la passion abattue, il reste, dans le cœur de l'homme, des racines inviolables qui se rattachent à d'anciens souvenirs comme le lierre qui, pourtant mort, embrasse le chêne sur lequel il a grandi. « Oh !» continuait Bernardo en regardant la forêt. Là-dedans, peut-être, se promène un jeune homme qui aspire à longs traits sa vie de bonheur, contemplant avec amour et extase un ciel pur et azuré, couvert de sa robe dorée. Il peut porter au loin ses yeux où respire la vigueur et l'avenir sans qu'il retombe avec dédain sur les barreaux de la cage d'un homme. Puis, regardant le château, « Oh, là-dedans il y a des hommes qui vivent. La valse peut être bondie sur le parquet, saccadée et délirante. Il y a des femmes qui tourbillonnent, entraînées dans les bras de leurs danseurs. Il y a des laquais aux livrées d'or, des chevaux dont la parure a peut-être coûté plus d'heures de travail que mes heures d'ennui. Il y a des lustres aux 1000 reflets, des diamants qui brillent dans les glaces. Il y a des roses de la vie. » Puis, il se remit sur son lit, en cherchant le sommeil, et il voyait dans un coin l'anneau qui brillait comme si Satan le lui eût présenté sans cesse. Il se retourna et il vit encore l'anneau dans tout son éclat. Respirant à peine, il s'assit. « Maintenant, » pensait-il en regardant la lune qui se reflétait sur les barreaux de sa cellule et sur le Christ déteint suspendu à son lit, « maintenant, » il y en a qui vivent heureux et contents, sans penser à la veille, au lendemain, à la vie, à l'éternité, et qui vivent pour le jour dont ils recueillent les joies comme le parfum qui s'exhale d'une fleur. Mais partons, tout d'or, le jour va bientôt venir. » À peine était-il minuit, et il lui semblait que l'aube pénétra dans sa cellule ainsi que son anneau, souvenir du monde, qui allait habiter avec lui dans le tombeau de sa vie. Aussitôt, il prit un sac d'outils et la clé du caveau qu'il s'était procuré, alluma une lanterne, descendit l'escalier et arriva à la porte de l'église qu'il ouvrit d'une main tremblante. Chaque pas qu'il faisait lui semblait le pas de quelqu'un qui marchait derrière lui, et il se retournait en frissonnant, aussi pâle que les morts qui l'environnaient. Il arrive, haletant, à la porte du caveau, l'ouvre et la referme. Il descendit tous les degrés. Sur le dernier, il s'arrêta et il plongea son regard dans un horizon de sépulcre. Son regard se reporta ailleurs et il ne vit encore que la mort, et la mort toujours. « Vite, vite, ouvrons le tombeau, car peut-être va-t-on bientôt s'apercevoir de mon absence, peut-être même est-on déjà sur mes traces. » Et il voulut prendre sa lanterne et remonter un degré, mais la lanterne lui glissa des mains et il ne put lever le pied. Il prêta l'oreille et n'entendit que le cri lointain des chouettes et des hiboux, mêlés au sifflement du vent qui s'entonnait sous les voûtes. Alors il trembla comme la feuille, ses dents claquèrent, ses jambes pliaient sous lui, car tout ce qui alors lui rappelait la vie était la mort pour son âme en torture. Enfin, il avança et se mit à compter les tombes et à lire les inscriptions. À chaque marbre qu'il touchait, il lui semblait que la mort allait se réveiller pour le damner et le maudire. Pourtant, il arrive à la tombe du prieur, l'ouvre, le déshabille de son linceul. L'anneau est là, qui reluit comme dans ses rêves. « Où est donc le forfait ? » disait-il. « De prendre quelque chose à un cadavre, en jouit-il de son anneau, puisqu'il n'a plus ni vie, ni souvenir, ni monde à rêver ?» Et il saisit cette main froide et décharnée, s'arrêta encore un instant et regarda avec peine cette barbe blanche, cet air de majesté répandu sur le visage du vieillard. Oh, c'est alors qu'il aurait voulu, qu'il n'eût dans le cœur des hommes ni remords, ni conscience, qu'il aurait voulu oublier le passé, le présent même, et ne penser qu'à l'avenir et à ses rêves. Et il touchait la main d'un cadavre. Il arracha l'anneau, le passa à son doigt avec frénésie, puis reprit ses tenailles et recloua le cercueil. Aussitôt, il entendit la cloche qui rappelait les moines à la prière de nuit. Se leva, mais il se sentit retenu avec force par le bas de sa robe. Il tomba à la renverse et alla se fracasser le crâne contre la paroi du caveau. Et son sang rejaillit sur le cercueil du prieur. Une année se passa, puis deux, puis plusieurs, jusqu'à ce que l'on ouvrit le caveau pour enterrer un autre prieur. On trouva un squelette entouré d'une robe dont le bas était pris dans les clous du cercueil voisin. Son crâne était horriblement mutilé, un anneau était à son doigt. On creusa la terre à l'endroit même et on l'enterra par pitié. Le soir, on dit un De Profundis pour le repos de l'âme d'un corps inconnu que l'on avait trouvé dans les caveaux. Eh bien, il avait voulu l'anneau pour avoir la vie, lui. Il avait vécu, car rêver, craindre, attendre, posséder à l'agonie, c'est vivre. À lui, comme à bien d'autres, sa richesse fut dans le tombeau et ses espérances vinrent se briser sous un suaire de mort. chevrin. Et le roi de Prusse, où l'on prend souvent la tête d'un roi pour celle d'un âne. Votre grand-père ne vous a-t-il jamais parlé de Frédéric, roi de Prusse ? C'était un grand homme sec et courbé, à cheveux poudrés, et qui s'appuyait toujours sur une longue canne de jonc. Le collet de son habit vert, qu'il ne brossait jamais, de son habit vert tout râpé et qui l'avait accompagné à la conquête de la Poméranie, était encore rendu plus sale par une longue queue de cheveux qui lui tombait au milieu du dos. Eh bien, cet homme, d'un génie si vaste, et qui, à ce qu'il semble, ne devait s'occuper que de conquêtes et de batailles, avait encore le temps non seulement d'écrire à Voltaire, oh, cela vous le savez, mais encore de plaisanter avec ses courtisans. Un jour, il appela Chevrin, lui remit une petite boîte, en lui disant affectueusement « Chevrin, je t'ai toujours connu comme un ami fidèle, voici un gage de ma reconnaissance. » Vous voudriez bien savoir ce que c'était que cette boîte. Un moment, je vais vous le dire. Elle était petite, de bois de palissandre, incrustée d'or et ornée de pierres précieuses. Chevrin l'emporte chez lui, l'ouvre avec impatience et voit, non son brevet de général, non quelques billets de banque, ni une décoration, ni un beau poignard, ni une lettre de noblesse, ni une nomination à la chancellerie, ni même quelques pistoles, ni même une bague, ni même un simple bijou, ni même la plus petite chose, ni même le plus mauvais madrigal. Mais c'était un portrait en miniature. Les narines étaient ouvertes, la bouche béante, si bien qu'elle semblait braire, avec ses oreilles gracieusement rabattues sur son col. Et ses grands yeux ternes étaient ouverts comme l'original. Ce n'était rien moins qu'un âne en toutes ses parties. Chevrin resta muet à cet aspect, toutes ses espérances déchues, toutes ses illusions envolées comme un brouillard. Oh, combien d'illusions, d'espérances, de rêves, d'ambitions se sont envolées comme un brouillard. Oh, combien d'illusions, d'espérances, de rêves, d'ambitions se sont évanouies devant une tête d'âne. Il lui vint une idée, non à l'âne, mais à l'homme. Il pensa que le roi oubliait ses services, qu'il abandonnait son ancien ami de bataille, et il pleura. Oh, combien de pleurs ont coulé devant une tête d'âne. Puis, il pensa que le roi avait voulu plaisanter et il sourit comme on a souri devant une tête d'âne. Ensuite, pour mieux la voir, il l'approcha de la fenêtre. Combien n'a-t-on pas mis au jour de tête d'âne ? Néanmoins, il se promit une vengeance. Qu'on veuille bien se transporter à quelques mois de là. C'était à la table du roi de Prusse. Arrivé au dessert, Chevrin tire une boîte de sa poche. C'était la certaine petite boîte qui contenait le portrait d'âne, mais cette fois, elle était ouverte, et chacun, prenant une miniature renfermée dedans, regardait le roi scrupuleusement et ramenait ses yeux vers la peinture, disant « Oui, c'est bien lui, sa bouche mi-ouverte semble parler. » C'est bien là ses larges narines et ses grands yeux ouverts. Elle arrive enfin à Voltaire, qui, criant plus fort en sa qualité de philosophe, dit au roi « Oh, sire, je n'ai jamais rien vu de si ressemblant !» Le roi, qui se ressouvenait et l'eut présent qu'il avait fait à Chevrin, croyait que c'était une représaille. Il trépignait d'indignation, était rouge de colère, et enfin, n'en pouvant plus, il se jette sur le portrait, le regarde et dit ensuite « Je prenais mon portrait pour celui d'un âne. » Or, on convint qu'il n'y a pas grande différence entre la tête d'un roi et celle d'un âne, puisque le possesseur s'y méprend. Dernière scène de la mort de Marguerite de Bourgogne. Connaissez-vous la Normandie, ce beau pays si rempli de vieux castels dont chacun éveille le souvenir d'un nom célèbre? La Normandie, où chaque champ a eu sa bataille, chaque pierre son nom. La Normandie, si remplie de vieilles légendes, de contes fantastiques, de traditions populaires qui tous se rattachent à quelques lambeaux de notre histoire du Moyen-Âge? Eh bien, sur les bords de la Seine, les ruines du château Gaillard sont encore là, debout, sur le roc, et semblent se rire, à la face de chaque génération qui naît et qui meurt, des 7 siècles qui, en passant, n'ont fait que lui arracher petit à petit quelques pierres qui roulent dans le ravin quand l'ouragan gronde et que la pluie tombe. Alors, en 1316, il était jeune encore. En haut, c'était son drapeau blanc dont les flots se roulaient au souffle du vent, à l'intérieur, les gardes, et au bas, dans un cachot, une femme qui gémissait et regardait le soleil couchant d'un air d'adieu, de rage et de désespoir. Elle était jeune encore, cette femme, 26 ans. 26 ans et pas un sourire à la bouche. 26 ans, et peut-être le nombre de ses crimes surpassait-il celui de ses jours. 26 ans. Et c'était la Marguerite de Bourgogne, la Marguerite aux orgies sanglantes à la tour de Nesle, Marguerite la femme aux nuits d'insomnie, aux rêves de sang, Marguerite la reine de France. Ce jour-là, elle avait demandé en grâce qu'on lui permît de regarder plus longtemps à travers les barreaux de sa cellule. Elle avait demandé à prendre l'air plus longtemps, comme si elle eût voulu en prendre pour l'éternité. Plusieurs fois, la main du geôlier s'avança pour fermer le volet. « Encore 5 minutes, » disait-elle d'une voix tendre et suppliante. Et le geôlier avait soin d'aller chez lui, de retourner son sablier, ayant compté le temps qu'il avait mis à venir et celui qu'il mettrait à retourner au cachot, puis il revenait de nouveau. Enfin, elle vit un cavalier qui s'avançait au galop et rentra dans sa chambre en pensant à ce que pouvait être cet homme qui se dirigeait en toute hâte vers la porte du donjon. Peu de temps après, la porte du cachot roula sur ses gonds et un homme se présenta. Il s'arrêta debout sur le seuil de la porte.
« Quoi ? C'est vous ?» lui dit Marguerite. « Vous ? Vous encore ici, Lyonnais ? Oh, Lyonnais ! Il faut que tu sois mon démon pour me poursuivre ainsi jusque dans ma prison, pour m'accabler jusque dans mon cercueil !»
Et elle se prit à rire amèrement. « Écoute, Marguerite, tous les deux nous voulions un spectre pour appui et un peuple pour esclave. Eh bien, Marguerite, toi tu as tué ton père et tu es reine de France. Moi, je n'ai tué personne et je ne suis rien. Tu m'accuses de la mort de mon père, Lyonnais, tandis que c'est toi, au contraire, toi qui as pris le poignard. Oui, cela est juste. » Tout vient que tu me poursuis toujours. C'est que, vois-tu, Marguerite, en commençant à t'aimer, j'avais aimé une enfant pure et candide, et que maintenant, Marguerite, je hais l'enfant qui est la femme adultère. Non, tu ne m'as jamais aimée. Oh, Marguerite, oui, je t'aimais. Et je t'ai donné mon bonheur, car je me suis étourdie sur le crime de ton père, et j'ai perdu ma foi, et maintenant tout mon être est le mélange de tous les vices, de toute la haine qui peuvent tenir dans le cœur d'un homme. Mais cette haine a débordé du vase des passions. Quelques gouttes sont tombées sur toi et te rongent.
Ciel ! Serais-tu ici l'exécuteur ?
Écoute, Marguerite. Non, tu ne m'as jamais aimée. Tu croyais pouvoir me dire dans mon cachot, « Lyonnais, tu m'as abaissé à la prière. Tu voyais mes larmes sans pitié, tu contemplais mon orgueil qui venait mourir aux pieds d'un assassin. Eh bien, j'assisterai à ton agonie. Je contemplerai tes dernières convulsions. Je verrai la main gluante de l'exécuteur s'abaisser sur ta tête défaillante. Et je la verrai, cette tête, tomber et rebondir sur le passé sanglant.
Eh bien maintenant, Marguerite. » Les temps sont changés, et c'est moi qui suis le maître, et toi la victime.
Oui, Marguerite, j'ai ordre de Louis de t'étrangler avec tes cheveux.
Lyonnais, tu ne te ressouviens pas de nos amours, en Bourgogne, de tes promesses et de tes serments?
Non, non. À toi les orgies à la tour de Nesle, à toi la trace de sang que l'on voyait sur ses murs, à toi les cadavres que la Seine chaque matin roulait dans son lit, à toi la honte, à toi l'ignominie, à toi la mort, à toi la malédiction.
Oh, grâce, grâce, Lyonnais, nous partirons, nous irons vivre loin d'ici, vivre dans notre premier amour, oublier tout comme un rêve sanglant, grâce, grâce.
Faisais-tu grâce à ceux qui, dans la tour de Nesle, te demandaient la vie sous le poignard de tes assassins? Marguerite, malgré tous tes crimes, malgré toutes tes nuits sanglantes et tes orgies infâmes, quelque chose n'est-il pas resté? As-tu quelques prières à faire? Oh, dis-la et vite, car cette heure-ci est ta dernière.
Marguerite s'agenouilla, prononça quelques mots en balbutiant. Était-ce des sanglots ou une prière?
Relève-toi, dit Lyonnais en la prenant par le bras. Bien d'autres me font attendre comme toi, ils me demandent successivement une heure, une demi-heure, une minute. Mais je donne plus. L'éternité.
Oh, ne me parle pas de l'éternité.
Allons, Marguerite, défais ton bonnet, tes cheveux. Oh, ils étaient beaux, tes cheveux. C'était ta joie et ton orgueil. Oh, tes cheveux qui s'ondulaient bien sur tes épaules. Oh, tes cheveux, qu'ils ont reçu de baisers brûlants et passionnés. Aussitôt,
Il en prit de mèches et en entoura le cou de Marguerite. On entendit un sourd râlement. Un corps tomba par terre et la belle Marguerite était un cadavre. Le lendemain, on porta un cercueil à Vernonnet. On creusa là une fosse et l'on mit dessus une simple pierre avec cette inscription. C.J. Marguerite de Bourgogne, reine de France. Des siècles ont passé sur cette tombe. Le temps a rongé le cadavre, l'herbe a caché l'inscription. Le temps efface tout, les rois eux-mêmes. Mais leur crime ? Oui. Mais plus tard.
L'infernale force me fait toucher le comble de l'abjection humaine. Tu le sais pourtant, Marguerite, que je me tue moi-même chaque fois que j'assassine, mais que je n'arrive jamais à tout à fait mourir.